bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fascinant.
Ah ouais, un très gros morceau même.
Exactement. En fait, notre mission, du coup, c'est de décortiquer un article de la revue Digital Wellness. On va essayer de comprendre la mécanique cachée derrière nos applications favorites.
Et surtout, de voir ce qui se passe réellement dans notre cerveau quand on a les yeux rivés sur nos écrans.
Voilà. Parce que y a quand même quelque chose de très troublant dans l'idée qu'un simple petit cœur rouge arrive à pirater un instinct de survie qui a des millions d'années.
C'est fou, hein. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, je trouve, c'est la persistance de ce mythe autour de la dopamine.
Bah oui, on entend partout que c'est la molécule du bonheur.
Et c'est pas du tout ça, en fait. On la réduit sans cesse à la satisfaction, alors que son rôle se situe bien en amont.
C'est-à-dire ?
Elle gère l'anticipation. Le pic de dopamine, il survient avant même l'action, pour signaler au cerveau qu'un comportement a de la valeur et qu'il faut absolument le répéter.
Donc, c'est plutôt le désir que le plaisir.
Tout à fait. C'est en quelque sorte le moteur de recherche originel de notre espèce. Celui qui nous poussait autrefois à traquer de la nourriture ou à chercher notre place dans une tribu.
Ah, d'accord, je vois le truc. Donc, au lieu de célébrer la récompense, elle crée surtout l'envie irrépressible de l'obtenir.
Voilà, c'est le signal d'alarme positif qui te dit « vas-y, continue, c'est crucial pour ta survie ».
Ce qui m'amène direct à un exemple génial des sources. L'article mentionne un court-métrage d'Arte sobrement intitulé « Dopamine » qui décortique le cas d'Instagram.
Un excellent exemple, ouais.
Et ce qui est dingue, c'est qu'au lieu de nous donner le contrôle tout de suite, bah, l'interface semble vraiment jouer avec nos nerfs. Comment une simple application fait pour exploiter cette anticipation avec autant de précision ?
En fait, les concepteurs utilisent ce qu'on appelle un programme de renforcement aléatoire. Le documentaire montre très bien comment l'application calque son fonctionnement sur celui d'une machine à sous.
Une machine à sous, carrément ?
Ouais. Quand on rafraîchit son fil d'actualité en glissant le doigt vers le bas, on voit souvent une petite roue qui tourne.
Ah oui, le fameux « pull to refresh ».
C'est ça. Et ce petit délai artificiel d'une fraction de seconde, il est crucial. C'est précisément à ce moment-là que la dopamine atteint son paroxysme.
Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va obtenir.
Exactement. On ne sait jamais si la page va révéler une nouvelle notification, un message ou absolument rien. Et l'incertitude décuple la production du messager chimique.
Le cerveau devient littéralement accro à l'attente elle-même, du coup. On tire sur le levier numérique en espérant le jackpot social.
Et si on prend un peu de recul, on frappe en plein dans le point aveugle de notre système nerveux.
Notre fameux cerveau préhistorique.
Tout à fait. Il a évolué dans un environnement de rareté extrême. Donc il n'a aucun filtre immédiat pour distinguer une interaction humaine primordiale d'une simple notification sur un écran.
Donc trouver des ressources ou avoir un match sur une appli, c'est la même chose pour lui.
Le signal biologique reste exactement le même. La boucle de rétroaction s'enclenche et exige la répétition frénétique de l'action.
Et c'est là qu'on tombe dans le piège du défilement infini.
Le scrolling sans fin. Le design même de l'interface abolit tout point d'arrêt naturel.
Bon, savoir qu'on est manipulé par un système optimisé contre votre propre biologie, ça fait un peu froid dans le dos. La vraie question, c'est comment on applique ça?
Bien sûr, l'aspect pratique.
Les sources regorgent de stratégies pour reprendre le contrôle. Mais concrètement, comment on met ça en œuvre au quotidien sans ressentir un manque immédiat?
La clé, selon l'article, c'est d'introduire de la friction.
Rendre l'utilisation moins fluide, quoi.
C'est ça. Les applis sont conçues pour qu'il n'y ait aucun obstacle. En désactivant les alertes non essentielles, par exemple, on empêche le téléphone d'envoyer le stimulus externe.
Celui qui déclenche artificiellement l'anticipation.
Absolument. L'autre technique géniale, c'est la micro-pause. S'imposer 3 petites secondes de réflexion avant d'ouvrir un réseau social.
3 secondes, ça paraît rien du tout.
Mais ça suffit amplement. Cet instant permet de faire basculer l'activité cérébrale de l'impulsion automatique vers le cortex préfrontal.
La zone de la décision consciente.
Exact. Ça laisse le temps de s'interroger sur l'intention réelle derrière le geste de déverrouiller son écran.
On transforme un réflexe en un choix. Et l'idée de chercher des récompenses dans le monde physique s'intègre parfaitement là-dedans, non ?
Complètement. S'engager dans une tâche complexe, lire un vrai livre ou discuter en face à face, ça sollicite le même circuit.
Mais de façon plus saine.
Sur la durée, oui. À un rythme physiologique continu, sans provoquer ces pics brutaux qui finissent par complètement épuiser notre système nerveux.
Pour résumer un peu tout ça, on pourrait dire qu'il est contre-productif de diaboliser la dopamine.
Tout à fait. Ça reste le carburant essentiel de notre motivation et de notre apprentissage. L'enjeu, c'est juste d'adopter un usage plus intentionnel.
Et de comprendre que le monde en ligne est conçu industriellement pour court-circuiter notre besoin naturel d'accomplissement.
C'est le mot de la fin parfait.
Ça change totalement la perspective qu'on observe ses propres habitudes. D'ailleurs, ça soulève une question assez vertigineuse en y repensant.
Je t'écoute.
Si ce circuit neurologique archaïque n'arrive pas du tout à faire la différence entre une réussite virtuelle et une victoire physique, on peut légitimement se demander si, à force d'optimisation algorithmique constante, nos relations et nos accomplissements virtuels finiront pas par avoir, d'un point de vue purement biologique, beaucoup plus de poids pour notre espèce que notre propre réalité physique. Voilà de quoi nourrir la réflexion bien au-delà de ces décryptages.